Éternel, notre Père, notre Dieu, merci infiniment pour tous les principes que tu as mis dans ta parole afin que nous soyons en bonne santé, Seigneur, autant physique que mentale et spirituelle. Tu veux que ces trois dimensions de nos têtes se développent harmonieusement et ainsi tu nous as donné tout ce qu'il faut pour que cela se réalise, pour que ce soit ton objectif principal se réalise. Aide-nous à nous rapprocher toujours plus de cet idéal, malgré que nous sommes dans un monde de péché et beaucoup limité dans les applications, mais et limité aussi dans les résultats, car on ne peut pas éviter la mort, on ne peut pas toujours éviter la maladie. Mais nous pouvons faire de notre mieux, Seigneur, pour ne pas être esclaves de ces choses et pour ne pas souffrir inutilement. C'est ma prière pour chacune des personnes ici. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous t'avons prié. Amen. Donc, ce soir. Oui, Mathieu. Ah oui, merci. Merci. Donc, ce soir, nous allons voir une partie des huit docteurs de la loi. Nous allons en couvrir quatre. Et nous allons aussi voir un peu la maladie, c'est quoi la source, c'est quoi l'origine ou c'est quoi la définition d'après les révélations que nous avons eues. Révélations données dans la Bible, révélations données dans les écrits que nous avons lus. Aujourd'hui, on va beaucoup lire dans le ministère de la guérison. Et nous allons conclure avec ça, puis demain nous allons poursuivre encore avec les huit docteurs, nous allons voir les quatre autres et puis présenter d'autres principes. Donc, dans Jean chapitre 10, c'est le verset 10, c'était un des versets avec lesquels on a commencé vendredi dernier, c'est écrit « Le voleur ne vient pas pour dérober, égorger et détruire. Dis-moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Donc la vie que Dieu veut nous donner, ce n'est pas une vie chiche, une vie où on n'a pas tout ce qu'il faut. Il veut que notre vie soit abondante. Pour pouvoir vivre cette vie en abondance, bien sûr, il faut être en bonne santé pour bien jouir de notre être, pour être utile pour la société, pour être utile pour Dieu. Et on a vu différents principes que Dieu a mis en place dans sa parole pour que nous puissions vivre, expérimenter cette vie abondante. On a aussi vu le psaume 100, verset 3, qui dit « Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, les troupeaux de son pâturage. C'est lui qui nous a fait. » Donc c'est lui qui est l'auteur, c'est lui qui nous a créés, c'est grâce à lui que nous existons. Puis on avait fait des parallèles avec les compagnies qui sortent des produits. Quand ils sortent un produit, il n'y a personne d'autre que cette compagnie-là qui peut vous dire comment ce produit fonctionne. Parce que ce sont eux les concepteurs. Donc, ils imaginent l'idée, ils la conçoivent, ils sortent le produit, ils le font breveter, personne ne peut reproduire pendant une certaine période. Et si le produit a un problème, vous pouvez, si c'est un petit problème, le réparer vous-même. Et si vous ne pouvez pas, vous devez le retourner à ceux qui l'ont confectionné. Donc, Dieu qui nous a fait, personne d'autre ne sait mieux que Dieu comment l'être humain fonctionne. Tout comme les compagnies donnent un manuel, n'est-ce pas, d'utilisation, Dieu nous a donné le manuel qui est la Bible, où nous trouvons les principes pour être en bonne santé et les principes pour être utiles à la société et utiles aux hommes. Lorsqu'on achète une automobile, si on ne l'emmène pas réparer fréquemment, dans son objectif qui est de nous emmener à un point A, à un point B, on peut même avoir un accident grave. J'ai eu mon auto qui est tombée en panne de manière terrible juste avant mon mariage, puis elle a lâché juste après le mariage. Dieu était bon, parce qu'il n'y avait pas l'argent pour tout ça. Mais quand j'ai réalisé c'était quoi le problème, c'était vraiment dangereux. Heureusement, ça n'est pas arrivé de catastrophe avant. Mais ce sont des outils faits par les hommes. Il faut suivre le manuel, il faut constamment entretenir, sinon le besoin primaire peut ne pas être réalisé. Un simple rappel des huit docteurs de la loi, donc il y a la confiance en Dieu, il y a l'air pur, respirer de l'air pur, il y a l'exercice quotidien, il y a la lumière du soleil, il y a se reposer, il y a l'eau, consommer de l'eau, la tempérance, et puis il y a finalement la nutrition. Ce sont les huit docteurs. Donc ce soir, nous allons en voir quatre sur les huit, après avoir parlé un peu de la maladie. Je vous inviterai, alors qu'on va en parler, de faire une analyse personnelle Alors que vous m'entendez parler, vous allez vous poser la question, vous, sur cette échelle, ou sur ces 8 docteurs, c'est sur quel point est-ce que vous avez besoin de plus travailler? Est-ce que c'est faire de l'exercice? Est-ce que c'est la tempérance? Est-ce que c'est la nutrition? C'est quel point qui est le moins développé dans votre application de ces 8 principes? Et comme ça, vous pourrez faire des progrès. Lorsqu'on roule dans la rue, on voit différents panneaux qui nous disent max 100 km/h ou max 50 km/h. Ça, c'est lorsqu'on roule dans la rue. Lorsqu'on est dans l'avion, il n'y a pas de limite, mais si vous voyez si vous regardez l'écran qui montre la vitesse de l'avion, je ne sais pas si vous avez déjà pris l'avion pour des longues distances, c'est 900 km/h à peu près. Si vous prenez un avion qui traverse l'Atlantique là, pour aller en Europe, 900 km/h. Quand vous êtes avec les trains, ben, ça va être une autre vitesse, etc. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que ce n'est pas... Il n'y a pas une seule vitesse, genre 900 km/h partout, qu'on soit dans les airs, qu'on soit dans le train, qu'on soit dans la rue, max 900 km/h. Pourquoi ce n'est pas ça la règle? La raison simple pour laquelle ce n'est pas la règle, c'est parce que derrière ça se cache un principe, n'est-ce pas, qui est le principe de sécurité. On s'est dit, si jamais vous dépassez cette vitesse dans tel environnement, ça devient dangereux. Donc quand on est dans les airs et qu'on est à 500 km/h, c'est pas grave. Si on est sur Terre ici, sur Henri Bourassa, à 500 km/h, c'est grave. Étant donné l'environnement où on se trouve. Donc, la limite, c'est une loi, mais la loi, elle est là pour illustrer un principe qui est la sécurité. Une loi pour un principe qui est la sécurité. Même chose qu'on roule sur l'autoroute et puis qu'on voit les glissières de sécurité de l'autoroute, c'est quelque chose de physique pour le principe de la sécurité, pour pas que notre voiture dérape et se trouve dans un ravin. Maintenant, dans Proverbe 22 et le verset 3, je vous invite d'ouvrir vos Bibles là-dedans, Proverbe 22 et le verset 3. Proverbe 22 et le verset 3. Proverbe chapitre 22 et le verset 3, c'est écrit « L'homme prudent fait quoi ? Il voit le mal et se cache. Mais les simples font quoi ? Avancent et sont punis. » Dans l'homme prudent, il voit le mal, il voit le mal et il s'éloigne, il se cache. Autrement dit, il est animé du principe de sécurité. Alors que celui qui est simple, il avance et puis il reçoit sa récompense. Ici, il y a beaucoup de règles pour pouvoir traverser les rues, etc. Il y a toutes sortes de codes écrits et non écrits. Mais j'ai vécu dans des pays où ça ne marche pas comme ça, où vous devez vraiment faire très très attention lorsque vous traversez, parce que vous n'êtes pas sûr dans quelle direction la voiture va venir. Et il n'y a pas de feu. Donc lorsque vous traversez, vous êtes très 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 attentif. Si le chauffeur ne vous a pas vu, il ne vous a pas vu. C'est à vous de le voir. Mais ici, je vois des gens qui marchent, ils s'engagent, puis ils disent « Ah, de toute façon, il va me voir ». Mais ça, ce n'est pas un principe sage, parce que si jamais il ne t'a pas vu et qu'il te rentre dedans, ben, tu peux le poursuivre comme tu veux, mais il a fini de casser ta jambe. Tu es déjà handicapé à vie. Donc, le principe de sécurité, c'est dès que tu vois une possibilité de danger, il faut agir avant et non pas abuser de ton droit et puis prendre le risque, n'est-ce pas, d'être atteint. Donc, avec la maladie, c'est la même chose, c'est que souvent, on est dans une société où la médecine est vraiment mis, l'accent est mis sur le fait de guérir les gens. On dépense énormément d'argent pour que les gens soient guéris. Je pense ici au Québec, c'est presque la moitié du budget du gouvernement va dans la santé. Mais sur cet argent, il y a la majorité, c'est pour guérir les gens et non pas pour leur apprendre comment éviter de tomber malade. Car mieux vaut prévenir que guérir, mais malheureusement, c'est pas ça. Donc, sans être des professionnels de la santé, il y a des principes simples qu'on peut appliquer qui vont nous éviter d'être malades. Dans le livre « Ministère de la guérison », page 103, paragraphe 1, c'est écrit « On accorde généralement trop peu d'attention à la conservation de la santé et on oublie que mieux vaut prévenir que guérir. » Toujours « Ministère de la guérison », page 103, c'est écrit « Le devoir de chacun envers soi-même et l'humanité est de s'enquérir des lois de la vie et de s'y conformer consciencieusement. Il faut se familiariser avec le corps humain, le plus merveilleux de tous les organismes, comprendre ses différentes fonctions et leurs relations en vue de l'action admirable de l'ensemble. On devrait étudier l'influence de l'esprit sur le corps et du corps sur l'esprit, ainsi que les lois qui régissent l'un et l'autre. Donc, le secret de la longévité se trouve dans les principes que la parole de Dieu nous a donnés. On doit aussi apprendre à raisonner vraiment de cause à effet. Cette fois, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Proverbes chapitre 26 et verset 2. Proverbes 26 et le verset 2. Proverbes chapitre 26 et le verset 2. C'est que comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction, quoi? Son cause n'a point d'effet. Puis d'autres versions disent la malédiction sans cause n'arrivera pas. C'est-à-dire, s'il n'y a pas une cause, vous n'aurez jamais l'effet. Pour tout effet, il y a une cause. Et dans Job 29, verset 16, il dit « J'étais le père des misérables » et dit « J'examinais la cause de l'inconnu ». C'est-à-dire, lorsqu'il y avait quelque chose que je ne comprenais pas, j'essayais d'examiner pour trouver c'est quoi la cause. Donc, il y a la maladie qui frappe, mais il faut savoir c'est quoi la cause. Puis on va voir plus loin que souvent le nom de la maladie n'indique pas la cause. Ça indique juste quelle partie de votre corps la maladie frappe. Mais ça n'indique pas la cause. Le style de vie nord-américain, où la vie va vite. Nous sommes pressés constamment. Nous avons peu de temps de qualité pour nous. Nous mangeons beaucoup de fast-food ou de nourriture préfaite que nous avons pris congelée dans les supermarchés. On saute souvent des repas à cause du travail ou à cause des études. On n'a pas le temps, on saute le repas. Donc on finit par manger juste un par jour ou parfois ne pas manger. On passe moins de temps à cuisiner parce que justement il nous faut beaucoup de temps pour faire beaucoup de choses. Donc on prend ces nourritures qui ne sont pas bonnes pour les faits. Et le mode de vie qui est ici a même influencé les pays qui étaient réputés être des pays en santé, comme la Chine où il y avait très peu de maladies du cœur. Malgré toutes les autres choses qu'on sait qu'ils mangent, il y avait très peu de maladies du cœur. Mais les restaurants très populaires ici, comme McDonald's, sont rentrés là-bas. Et d'autres sortes de nourriture sont rentrées dans ces pays. Et les gens ont commencé à avoir de grandes maladies du cœur. En adoptant le mode de vie qu'on trouve ici en Amérique du Nord. D'ailleurs, à un moment donné, il y avait eu un scandale, ça c'était au Japon, par rapport à la viande du McDo qui était contaminée. Et on a vu le réflexe qu'ils ont à aller vers les choses, vers quelque chose qui n'est pas de la viande. C'est que le McDonald's au Japon offre la possibilité d'avoir des croquettes au tofu. Chose qu'on n'aura pas, on n'a pas encore à Montréal. Donc c'est pratiquer ce style de vie qui souvent nous emmène à être malade, à être malade sans même s'en rendre compte parce que c'est juste comme ça que tout le monde fonctionne. Donc on doit se poser la question, si on arrive à ne pas être en bonne santé, c'est quoi la cause? Peut-être que c'est une de ces raisons qui nous a emmenés là. Maintenant, je vais vous lire la définition de la maladie. C'est quoi la maladie selon encore le ministère de la guérison? Cette fois, c'est page 102, paragraphe 1. C'est écrit « La maladie est l'effort. La maladie, c'est l'effort de l'organisme pour rétablir un équilibre rompu par la violation des principes qui régissent notre être physique. » Donc, quand la maladie arrive, c'est le corps qui réagit pour rétablir l'équilibre qui a été rompu. L'équilibre a été rompu comment? Parce qu'on a brisé un de ses principes, on a brisé une de ses lois. Donc on avait dit dans la première présentation qu'on avait deux sources d'énergie, qu'on avait l'énergie qui venait lorsqu'on mange, on fait de l'exercice, ce qui dépend de nous. Puis il y a l'autre source d'énergie qui est comme un compte d'épargne qu'on reçoit de nos parents et que l'on hérite depuis que Adam est sur Terre. Et le corps maintenant avec ses énergies fait en sorte que notre corps est équilibré. Et quand le corps est déséquilibré, c'est là que la maladie frappe. C'est juste une alerte, c'est une lumière rouge pour montrer qu'il y a le déséquilibre dans le corps. Maintenant, des exemples de comment est-ce que la maladie frappe ou la maladie se manifeste. Par exemple, une simple toux ou un simple éternuement ou alors lorsque l'on a la fièvre. Ça, ce sont des petites choses. On ne parle pas de cancer ni quoi que ce soit. Mais qu'est-ce que le corps essaie de faire lorsqu'on a la toux? Il essaie de sortir, n'est-ce pas, des impuretés qui sont ici, au niveau de votre gorge ou ailleurs dans le corps, qui viennent ici et veut les sortir du corps. Mais souvent, qu'est-ce que l'on fait? C'est que pour réagir, on va prendre des antitussifs qui vont bloquer le réflexe de la toux. Ça fait qu'au lieu que le corps puisse sortir, n'est-ce pas, les mauvais éléments, ben, ils restent là. Ils ne peuvent pas sortir. On les accumule. Donc, on n'est pas en train de toucher la cause, on est juste en train de s'attaquer aux symptômes. Lorsqu'on a un éternuement, même chose, on va prendre des antihistamiques. Et encore, on empêche le corps d'évacuer ce qu'il veut évacuer. Ou lorsqu'il y a la fièvre, le corps chauffe à une grosse température, c'est parce qu'il veut brûler des toxines qui sont dans le corps. Donc si on le laisse pas s'exprimer comme il faut, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas contrôler la fièvre, ben on empêche le corps d'accomplir son travail. On lutte contre le corps lui-même. Je vous disais tantôt que la maladie, le nom de la maladie, n'indique pas toujours c'est quoi la cause. Ça dit juste quelle partie de votre corps est touchée par la maladie. Par exemple, si vous avez la buriste, c'est l'inflammation que vous pouvez avoir au niveau des coudes, des genoux, etc. Au niveau des bourses séreuses. Si vous avez la lombalgie, c'est une douleur du rachis lombaire, les cinq derniers disques qui sont en bas de votre colonne vertébrale. Et l'arthrite, c'est l'inflammation au niveau des articulations. Donc, ce sont des noms qui indiquent quelle partie de votre corps est touchée. Par contre, la cause n'est pas là. Donc, il faut vraiment aller examiner pour savoir d'où est-ce que ça vient. Et ça peut avoir différentes causes. Tant qu'on ne va pas à la racine, on ne pourra pas éliminer la maladie. C'est comme si on avait un autre corps qui est représenté par un arbre et chacun des symptômes qui se manifestent par une des feuilles. On peut arracher autant de feuilles qu'on veut, tant que l'arbre n'est pas déraciné, la maladie va toujours se manifester. Dans Job 14, verset 7, c'est écrit « Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau, il pousse des branches comme une jeune plante. » Donc on a tout fait là pour que l'arbre ne meure pas, mais comme on n'a pas enlevé les racines, eh bien il y a encore de l'espérance, il est encore là et puis il revient à la vie. Puis Job continue en disant qu'il n'en est pas ainsi pour l'homme parce que la moindre chose et l'homme n'est plus là. Donc il faut vraiment s'attaquer à la cause. L'exemple qui est donné souvent, c'est un bateau qui est plein d'eau, qui se remplit d'eau, parce qu'il y a un trou dans la coque. Est-ce que la solution, c'est de prendre plein de seaux puis de rejeter l'eau dans la mer, ou est-ce que c'est de boucher le trou? Évidemment, la solution, c'est de boucher le trou. Les symptômes sont là juste pour montrer qu'il y a un problème qui ne va pas. Et s'attaquer aux symptômes, c'est comme juste tuer le messager parce qu'il apporte une mauvaise nouvelle. Rappelez lorsque Jésus parlait aux gens, puis disait « Vous avez tué les prophètes, etc. » Ben, les gens, ils éliminaient les prophètes, ils éliminaient les messagers. Mais la cause, le péché était toujours là et ils faisaient rien par rapport à ce péché-là. Donc la maladie, les symptômes, c'est le messager. Et souvent, on a des méthodes médicales qui tuent le messager. Parce qu'il annonce une mauvaise nouvelle. Mais on ne veut pas savoir souvent c'est quoi la mauvaise nouvelle. Maintenant, que faire en cas de maladie? Je vais reprendre la citation. Il y a quatre éléments qu'on nous conseille de faire lorsque la maladie est déjà là et qu'on ne peut pas faire. On peut rien faire, on est déjà malade. Donc, c'est plus le temps de prévenir, c'est le temps de guérir. Que faire? Premier élément, elle dit, ça c'est ministère de la guérison, page 102, paragraphe 1. Ça dit, il faut premièrement en rechercher la cause. Donc, ce qu'on a vu, est-ce que c'est un manque de sommeil? Est-ce que. On consomme trop de sucre? Est-ce qu'on ne se repose pas assez? Est-ce que c'est une de ces choses qui fait que la maladie a frappé? Ensuite, il faut écarter les mauvaises habitudes qui auraient pu emmener cela. Notez des habitudes de vie, parce que parfois la cause n'est pas due à une habitude, c'est juste quelque chose ponctuel. Mais si c'est une de vos habitudes de vie, il faut l'écarter. Et le numéro 3, c'est qu'il faut ensuite s'attaquer aux conditions, supprimer les conditions qui sont insalubres et qui fait en sorte que vous arrivez dans cette situation. Exemple, est-ce que vous travaillez dans une entreprise qui fait en sorte que vous allez tomber malade à coup sûr? Par exemple, ceux qui travaillent le plastique. Une fois, je suis allé dans un entrepôt, et puis dès que je suis rentré, je voulais travailler là, dès que j'ai vu que c'est l'entrepôt qui fabrique des gros blocs de plastique, donc vous avez un énorme piston qui descend du plafond et puis qui presse le plastique, et je voyais que ceux qui travaillaient là mettaient des masques. Donc, j'avais déjà dit que j'allais travailler, mais on ne m'avait pas dit que c'était ça, enfin on ne m'avait pas bien précisé la chose. Donc dès que j'ai vu la chose, je suis allé voir le patron et je l'ai remercié. Parce que la maladie était garantie avec ce type d'environnement. La pollution des villes, à Montréal, ce n'est pas une des villes les plus polluées du monde, mais c'est quand même une grande ville, c'est pollué. Mais il y a des villes comme New York, Mexico, etc., ou des villes en Chine qui ont une pollution vraiment extraordinaire. les endroits de la maison, est-ce que les endroits de la maison sont super propres? Il y a deux endroits de la maison en particulier qui doivent être bien plus propres que les autres. Le premier, c'est la cuisine, parce que c'est là où on met toutes choses à l'intérieur de notre corps. Et le deuxième, c'est les toilettes, parce que c'est là où toutes choses sortent de notre corps. Donc là où ça rentre et là où ça sort, ça doit être super propre. Les animaux, il ne faudrait pas avoir d'animaux dans la maison. Il y en a qui aiment ça avoir des animaux dans la maison, dormir avec l'animal, embrasser l'animal, etc. Mais c'est pas toujours bien parce qu'il y en a qui ont souffert de... ils avaient le ventre ballonné. Et ils se demandent c'est quoi qui fait que j'ai le ventre ballonné, puis ils ont vu qu'il y a plein de vers dans leur ventre. Mais ces vers viennent d'où? Ils viennent de l'animal qui tu dors avec et que tu embrasses, etc. Donc, les animaux, on peut en avoir, mais c'est mieux qu'ils ne doivent pas partager notre intimité physique. Et on voit l'exemple des enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte, qui ont fait 40 ans dans le désert, et en 40 ans, il n'y a jamais eu de problème d'hygiène. Tout était toujours propre, l'environnement était propre à cause des lois que Dieu avait données. À la fin du séjour, personne, il n'y avait pas un seul malade. Donc l'environnement est vraiment très important. Et finalement, une fois qu'on a fait ces trois choses, c'est-à-dire qu'on a identifié la cause, ensuite on a écarté les mauvaises habitudes qui pourraient, si jamais c'est lié à une habitude, et ensuite on s'est assuré que notre environnement n'est pas sale, qu'il n'y a pas d'insalubrité. La quatrième chose à faire, c'est que maintenant, on aidera la nature à éliminer les impuretés et à rétablir l'état normal de l'organisme. Donc là, on peut aider le corps. Là, on peut trouver comment est-ce qu'on va aider le corps à mettre fin à la maladie. Mais souvent, ce qu'il y a dans notre système, c'est qu'on saute directement à la quatrième étape. On ne cherche pas toujours la cause. On n'essaye pas de changer nos habitudes et on n'essaye pas de rendre notre environnement plus propre. Ou parfois, on ne se rend pas compte c'est quoi qui est sale qui a apporté ça. Donc, on saute tout de suite à aider le corps. Et ça, parfois, ça peut être désastreux. Maintenant, les quatre docteurs. On va voir quatre docteurs sur les huit docteurs en général. Donc, numéro un, c'est la confiance en Dieu. Ouvrez vos Bibles dans Matthieu chapitre 11 et le verset 28. Matthieu chapitre 11 et le verset 28. Matthieu chapitre 11 et le verset 28. Jésus dit, venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Docteur numéro 1, la confiance en Dieu. Lorsqu'on n'a pas confiance en Dieu, le résultat, c'est en général, le résultat, c'est le stress non contrôlé. Donc, nous expérimentons tous le stress dans la vie, c'est normal, à cause d'études, de travail ou différentes choses. Et comme on l'a vu dans la présentation numéro 2, que lorsque ça se manifeste sur une courte période de temps, c'est bon parce que ça nous aide à réagir face à ce que nous vivons. Mais lorsque le stress se prolonge sur une longue période et qu'il est très intense, au-dessus des capacités que nous avons à résister à ce stress, à ce moment-là, ça devient néfaste pour le corps. Donc lorsque on est anxieux, lorsque on est stressé, pour nous, les croyants, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'est pas sûr, est-ce que Dieu est vraiment en contrôle de la situation? Donc notre état émotionnel de stress est le reflet de est-ce qu'on fait confiance à Dieu ou pas pour telle ou telle situation que nous sommes en train de vivre. Maintenant, posez-vous la question sur une échelle de 1 à 10. C'est quoi votre niveau de stress actuellement? De 1 à 5 étant quelque chose que vous ressentez mais contrôlable, où vous n'avez pas l'impression que vous manquez complètement de confiance en Dieu et que ça dépasse vos moyens. Et lorsque vous montez au-dessus de 5 et vous allez jusqu'à 10, là vous sentez que le stress est énorme et que vous êtes dans une lutte pour avoir le contrôle là-dessus. Sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que vous vous trouvez? Ne me répondez pas, mais posez-vous la question, où est-ce que vous vous trouvez sur une échelle de 1 à 10? L'esprit est vraiment affecté par le niveau de stress que l'on a. le sang va être affecté au niveau du stress, le système immunitaire va être affaibli et le système digestif peut être ralenti aussi à cause de cela. Le niveau du stress peut faire en sorte que le potassium et le calcium dans le corps manquent. Le calcium, donc, il peut poser des problèmes au niveau des os, ostéoporose ou autres problèmes au niveau des os. Et le manque de potassium dans votre corps qui peut causer des problèmes au niveau de votre tension artérielle. Le corps aussi peut faire en sorte que, le stress, pardon, peut faire en sorte que votre corps va souffrir au niveau des glandes surrénales, qui va supprimer donc le système immunitaire. Le stress émotionnel, quant à lui, peut causer n'importe quelle maladie parce que ça part du cerveau, puis c'est comme, je sais pas, les toxines qui sont sécrétées à cause de votre stress, des hormones de stress peuvent affecter n'importe quelle partie de votre corps. Donc nous devons développer vraiment cet art d'aller à Dieu puis de lui remettre n'importe quoi que l'on vit pour être sûr que le stress ne nous dépasse pas. Dans Psaume 55, verset 17, c'est écrit « Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis et il entendra ma voix. » Donc il faut prier plus, il faut aller à Dieu jusqu'à ce qu'on sente qu'il est vraiment en contrôle de ce qui nous arrive. Dans Jérémie 32, verset 17, c'est écrit « Ah, Seigneur, l'Éternel, voici tu as fait les cieux et la terre, par ta grande puissance et par ton bras étendu, rien n'est étonnant de ta part. » D'autres versions disent « Rien n'est difficile pour toi. » Donc, peu importe la situation dans laquelle on est, situation financière ou situation maritale ou situation avec les enfants ou situation au travail, il n'y a pas de situation qui sont trop difficiles pour Dieu. Mais quand on lit là, c'est bien beau, mais est-ce qu'on l'expérimente vraiment? Et maintenant, la façon dont nous réagissons au niveau de l'anxiété et du stress démontre si nous expérimentons cela vraiment ou non. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous êtes mauvais, que vous n'avez pas la foi, mais ça veut juste dire que Dieu vous invite à passer plus de temps avec lui. Dieu vous invite à exercer ces choses-là pour qu'il vous montre qu'il est un Dieu grand et qu'il contrôle tous ces aspects. Donc c'est pour ça que le premier docteur, qui est la confiance en Dieu, est vraiment capital pour tous les autres. Dieu veut transformer nos soucis en confiance. Il veut transformer nos problèmes en promesses et il veut transformer nos peurs en foi. Et alors que nous passons à travers tout cela, Dieu dit, venez, priez et voyez la délivrance que je peux vous apporter. Donc la confiance en Dieu réduit notre stress, améliore notre système, là, parce qu'il réagit aux hormones de stress que notre corps sécrète. Le deuxième, docteur, l'air pur. Pas juste l'air, mais l'air pur, l'air qui n'est pas pollué. Nos cellules ont vraiment besoin d'oxygène pour fonctionner, et particulièrement celles du cerveau. Et si elles manquent d'oxygène pendant plus que 3 minutes, elles meurent. Donc lorsque l'on respire de l'air pur, ça a un grand impact sur notre cerveau, sur nos cellules, dans tout le corps en général. Dans nos poumons, il y a des cellules qui sont là pour recevoir tout cet air, cet oxygène que nous respirons. On a 300 millions de cellules dans notre corps, dans nos poumons, qui sont là pour cela. Et si on devait les déployer puis les étaler pour qu'elles soient sous une forme, comme sous une feuille, et puis qu'on essaie d'étaler le nombre de feuilles pour voir qu'est-ce que ça prendrait comme surface, eh bien, toutes les cellules de notre poumon pourraient prendre ce qu'il y a ici à Béthanie, et puis l'ancien espace que l'on avait avant là. Si on étalait toutes vos cellules, ça prendrait tout ça environ comme espace. Juste celles qui sont dans vos poumons à chaque fois que vous respirez et qui absorbent l'oxygène que vous mettez dans votre corps. Donc l'air pur est vraiment, vraiment importante. Ça nous apporte aussi de l'énergie parce que l'oxygène que l'on prend en respirant va se combiner au glucose qui est dans notre corps et va produire de l'énergie. L'oxygène est pour les poumons ou la respiration, si vous voulez, elle est pour votre corps, la même chose qu'est la prière pour votre âme. Donc, est-ce que l'on peut passer longtemps sans respirer? La question évidente, c'est non. Je savais, il y a différents records là, mais un être humain ne peut pas passer longtemps sans prier. Jean-Max, pour les plus forts là, entre 5 et 10 minutes. Mais pour vous et moi, comme un des mortels, je suis sûr, si on retient votre respiration, 1 minute et 30, vous allez perdre connaissance. Donc, la même manière qu'on a besoin de respirer constamment, on a besoin de prier constamment. On a besoin d'être constamment en contact avec la source qui est Dieu. Docteur numéro 3, l'exercice quotidien. Elle est dans Luc chapitre 13 et le verset 33. Luc chapitre 13 et le verset 33. Luc chapitre 13 et le verset 33. Jésus dit, mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Donc, il faut que je marche. Juste attirer votre attention sur marcher. À l'époque, le ministère, ça se faisait comme ça. À chaque fois, on disait, Jésus était dans telle ville, était à Jérusalem, était en Galilée, était ici. Tout se faisait à la marche. Énormément d'exercices. Et le meilleur exercice, ou de loin, le meilleur exercice, c'est vraiment la marche. Maintenant, juste spécifier des choses, la marche, c'est vraiment bien, là, mais parfois, on parle à des gens qui sont jeunes et en pleine santé, puis on dit, tu fais quoi comme exercice? Puis ils disent, je marche. C'est bien, mais vous êtes capable de plus que ça. Vous n'êtes pas des personnes du troisième âge, où quand vous marchez, c'est un exploit. Donc, si on est capable de faire plus, il faut vraiment faire l'exercice, maximiser l'exercice. Oui, c'est vrai, la marche, c'est bien, mais allez selon vos capacités. Si à 25 ans, tout ce que vous pouvez faire, c'est marcher, qu'est-ce que vous ferez à 63? Ou plus marcher. La marche, c'est vraiment important parce que il y a beaucoup de choses que le corps fait seulement lorsqu'il y a de l'exercice. Lorsqu'il est en mouvement, si on ne fait pas ces choses, il peut pas faire certaines opérations. C'est-à-dire lorsqu'on reste stagnant, on reste juste comme une patate sur un sofa là et qu'on fait rien, notre corps ne peut pas faire certaines choses. Par exemple, lorsqu'on est en exercice, on fait de l'exercice, ça fait en sorte que le glucose qui est dans notre corps va passer juste du sang et va être mis dans les cellules. Donc les cellules vont pouvoir l'absorber grâce à l'exercice que nous faisons. L'exercice va faire en sorte que notre pulsation cardiaque aussi va être bonne, va être comme celle. Si on en fait beaucoup, va être comme celle d'un athlète, et si on en fait très peu, va monter, puis peut nous emmener à avoir des crises cardiaques. L'exercice va faire en sorte aussi que notre cerveau fonctionne bien, et puis peut bien communiquer tous les signaux à l'ensemble du corps. Le fait de faire beaucoup d'exercices aussi apporte de l'énergie. Si on dit, oh, je suis fatigué, je ne peux pas faire d'exercice. Mais le fait d'en faire apporte de l'énergie au corps, justement. Donc il faut en faire pour pouvoir en avoir plus. Le fait de faire de l'exercice aussi va faire que notre corps va sécréter de l'endorphine. Donc, on va permettre qu'on ait un meilleur balancement de notre chronologie, puis qu'on puisse bien dormir, etc. Le fait de faire de l'exercice va faire en sorte que notre système digestif va mieux fonctionner, on va pouvoir mieux évacuer ce qu'on a évacué, et puis assimiler ce que nous avons à assimiler. Et le fait de faire de l'exercice va bien contrôler dans notre sang le niveau de sucre, le niveau de glucose, ce qui est bon pour des personnes qui ont trop de sucre, qui ont des problèmes de diabète. Donc l'exercice est toujours bénéfique. Et le fait de faire de l'exercice va aussi permettre à les anticorps de se développer parce qu'ils sont pompés par l'exercice que nous faisons et les anticorps se libèrent pour défendre notre corps. Docteur numéro 4 que nous voyons ce soir, Malachie chapitre 4 et le verset 2. Malachie chapitre 4 et le verset 2. Malachie chapitre 4 et le verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera quoi? Le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Donc ici, le docteur numéro 4, le soleil est associé à la guérison. Chose intéressante, c'est qu'en pratiquant une des choses, on peut pratiquer plusieurs docteurs en même temps. Donc si je sors faire de l'exercice, en même temps que je fais mon exercice, j'ai mon air pur, et en même temps que je fais mon air pur, si c'est un jour où il y a du soleil, je reçois la dose de soleil dont j'ai besoin. Donc, le fait de juste se mettre à en pratiquer une permet de faire d'une pierre plusieurs coups. Pour la confiance en Dieu, on a vu, c'est vraiment dans la prière, dans l'exercice spirituel. Mais pour ce qui est du physique, on peut vraiment en pratiquer plusieurs d'un seul coup. Et puis, je peux boire aussi pour que mon corps soit bien hydraté. Le fait de recevoir le soleil, comme c'est gratuit, comme c'est pris pour acquis, on ne se rend pas compte de tous les bienfaits qui viennent avec. Surtout... Surtout ici, peut-être, où on n'en a pas tant que ça toute l'année. Mais si on pouvait encapsuler le soleil quelque part et puis le vendre comme des bouteilles d'eau, les gens l'achèteraient s'ils comprendraient vraiment c'est quoi les bénéfices. Par exemple, ça permet que votre corps puisse avoir des os plus solides. Ça permet que votre corps puisse bien absorber, ça va aider aussi au niveau de l'oxygène dans le corps. Et ça va stimuler aussi au niveau du foie pour le travail que votre foie va faire. Ça va faire en sorte que vos cellules de sang vont être plus fortes. Et ça va faire en sorte pour ceux qui ont, parce que le soleil va permettre de sécréter la vitamine D, donc ça va faire que le cholestérol qui est au niveau de votre peau, avec le soleil, va être transformé en vitamine D pour que ce soit vraiment un bienfait pour votre corps. Ceux d'entre nous qui avons la peau, pour la plupart d'entre nous qui avons la peau vraiment foncée, nous avons besoin d'une exposition plus longue que ceux qui ont la peau plus claire. Donc minimum de 30 minutes, tandis que pour ceux qui ont la peau plus claire, puis pour nous ça peut monter à plus, pour que nous puissions recevoir la dose que l'on a, parce qu'on a tellement de mélanine dans notre peau qui l'a foncée, qu'il faut plus de soleil pour avoir les mêmes effets. C'est que lorsque l'on se retrouve dans les pays très chauds, où il y a beaucoup de soleil, la question se pose moins. Mais lorsque nous venons ici, où il y a moins de soleil, ben nous devons faire un peu plus d'efforts que les autres pour en recevoir, car notre corps en demande plus. Le soleil a un effet sur les infections, les germes que vous avez au niveau de votre peau vont être tués s'il y a une bonne exposition face au soleil. Il va faire en sorte que vous allez être de meilleure humeur, n'est-ce pas? Lorsqu'on arrive dans l'hiver, des gens peuvent être déprimés parce qu'ils ne reçoivent pas assez de soleil. Donc la lumière du soleil joue sur notre humeur. Et les gens se posent la question, mais qu'est-ce qui arrive au niveau du cancer de la peau? Et si je m'expose trop et puis que je reçois le cancer de la peau, ben, disons que pour nous, il faudrait aller vraiment loin pour qu'on arrive au cancer de la peau. Donc c'est pas quelque chose qui arrive vraiment par exposition du soleil, à moins que vous soyez en République dominicaine et que vous soyez sur la plage tout le temps en train de vous exposer. C'est pas quelque chose qui arrive si souvent à cause du soleil. Donc, réduire notre taux de cholestérol nous permet d'avoir assez d'oxygène dans notre corps, nous permet de réguler le sucre, nous permet d'avoir une meilleure humeur et nous permet de sécréter la vitamine D dont notre corps a besoin. Donc sur le docteur Soleil, sur le docteur R, ou sur le docteur Confiance en Dieu, c'est où est-ce que vous vous situez sur l'échelle de 1 à 10, où est-ce que vous voyez que vous avez le plus à progresser, que vous avez le plus à mettre ces choses en pratique. On va poursuivre demain avec les quatre autres et puis voir d'autres principes. Et peut-être que pour vous, ceux-là sont déjà acquis. Ou si ce n'est pas acquis, que vous aurez à plus travailler là-dessus. Souvent, lorsqu'on parle de santé, les gens mettent souvent beaucoup l'accent sur l'aspect nutrition. Parce que la nutrition, c'est vraiment important. Mais c'est souvent cet aspect qui va être beaucoup développé et les autres mis à part. Parce que on se demande où est-ce qu'on va trouver le temps de pratiquer ces choses. Mais ça peut vraiment faire une différence phénoménale au niveau de notre santé, au niveau de l'amélioration que les gens ont. Encore une fois, il y a un témoignage qui a été donné d'une dame qui avait contracté la maladie du sida et qui avait essayé avec les docteurs d'avoir vraiment la guérison. Ou au moins, vous savez, lorsque l'on a, ce n'est pas une maladie reconnue comme curable aujourd'hui, hein, mais c'est une maladie où on va prolonger votre vie au maximum, mais ça va rester dans votre corps constamment. Et on lui a donné maximum, parce que son cas était avancé, maximum un an à vivre. Et je ne sais pas comment elle est rentrée en contact avec ces adventistes qui ont des centres bien placés en dehors des villes où ils offrent tous ces docteurs de la santé et ils offrent tout l'environnement possible pour pouvoir guérir. Et elle est allée contacter ces gens et elle a passé du temps sur ce self-supporting center où ils pratiquent tous ces docteurs de la loi. Et ils ont réussi à, on ne va pas dire que c'est ça qu'ils sont fixés comme objectif, mais au moins de lui permettre de vivre plus longtemps. Mais je trouve que non seulement ça lui a permis de vivre plus longtemps, mais ça a fait en sorte que ça a carrément éliminé le sida de son corps. Elle a vraiment guéri de la maladie. Ils ont rapporté ces choses aux médecins qui le suivaient. Et comme je vous disais l'autre fois, souvent lorsqu'ils ne peuvent pas expliquer les choses, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont classer le dossier et vont dire, on ne sait pas, on ne sait juste pas, donc on ne peut pas le mettre dans nos statistiques. Donc ils ont classé le dossier. Maintenant, si le fait d'appliquer ces principes a pu permettre à quelqu'un qui avait la maladie du sida de guérir, à plus forte raison, nous qui avons moins que ça, des petites choses, comment ça peut nous préserver de la maladie? Et au lieu de réagir seulement lorsque notre corps est malade, de prévenir en appliquant tous ces principes de manière à ce qu'on ne se trouve même pas dans ces situations. Comme je disais, on est dans un monde de péché, donc on ne peut pas éviter la maladie constamment, on ne peut pas éviter la mort, mais on peut éviter de souffrir inutilement, c'est-à-dire tout ce qu'on peut échapper par des choix intelligents, faisons-le. Donc je vous invite à méditer là-dessus et nous allons prier pour clôturer notre méditation de ce soir. Mettez-vous debout avec moi et je vais faire une prière de clôture. Éternel, notre Père, notre Dieu, tu nous as donné un seul plan, Seigneur. Il n'y a pas 56 plans sur comment être en meilleure santé. Heureusement, Seigneur, nous allions nous y perdre. Nous avons tellement de mal juste à mettre en pratique ce seul plan que nous apprenons constamment, Seigneur, qui nous est répété pour ceux qui sont là depuis longtemps et pour ceux qui le découvrent, Seigneur, qui doivent apprendre pas à pas, étape après étape, à le mettre en pratique. Mais heureusement, nous avons un seul plan simple en 8 points qui nous permet d'être mieux outillé, Seigneur, pour préserver notre santé. On ne combat pas la maladie, Seigneur, en luttant contre elle, mais on combat la maladie en se préservant en santé, en appliquant ces principes. Permet que ce soit une réalité pour chacun d'entre nous, que nous voyons des progrès, et que nous, si jamais nous sommes frappés de quelque chose, que nous guérissions, ou alors que tu nous épargnes, que nous n'avons même pas à voir, Seigneur, les effets qui seraient venus de la non-pratique. C'est un prière pour chacune des personnes ici présentes, et c'est au nom de ton Fils Jésus que nous t'avons prié. Amen.